Vous voyez, Christophe, là, regardez, qu'est-ce qui vient de s'allumer là?
Un rond rouge.
Voilà, alors ça veut dire parce que, c'est que l'émission commence.
Donc là, ça veut dire qu'on vous entend.
Que, voilà, et vous aussi, parce que vous êtes comédien de formation. Oui. Mais ce que vous n'avez peut-être pas digéré, je dirais, c'est qu'à la radio, vos petits visuels, là, vos petites mimiques, ça n'amène rien. Des petites choses rigolotes que vous faites avec vos yeux, quand vous touchez votre nez avec votre langue, vous bougez vos oreilles. Alors vous avez sûrement des petits succès de société. Hein, peut-être qu'en famille, vous avez un tonton qui dit « Ah, il est drôle, Christophe, il se touche là-là ».
En effet.
Mais ça ne... Alors en radio, vous voyez ? Moi, ce que j'attends de vous, parce que vous savez combien de jours que vous venez dans l'émission ? Combien de mois ?
Ça fait depuis le mois d'octobre.
Voilà. Ce sont des saillies. Des mots d'esprit, un esprit affûté, tout à coup un petit mot pour l'auditeur. Parce que on n'est pas... Depuis le début, vous croyez qu'il n'y a que nous deux.
Oui.
Mais quand le micro est ouvert, que le truc rouge est allumé, ça veut dire que ça passe à la radio.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire, vous êtes à Radio Nova.
Oui.
101.5 à Paris, et dans plein de villes, c'est très, plein d'ondes différentes. Bon, admettons, ça c'est compliqué pour vous.
Oui.
Quand vous êtes chez vous, il vous arrive d'écouter la radio.
Parfois, oui.
Bon, alors la télé, imaginons. Quand vous regardez la télé.
Voilà. Oui. Ça, oui.
Je ne sais pas, je...
Eh ben, on voit les gens.
Non, mais là, c'est la radio, sa télé sans lumière, l'image.
C'est la télé sans image.
Alors, faites...
Quel est l'intérêt ?
Alors, regardez, s'il y a cette petite musique, par exemple. La mettre avec
Armel. Ah ! Eh ! Ah oui !
Voilà, continuez, vous êtes inspiré.
Ça fait du bien.
Voilà, vous amenez des choses aux gens.
Voilà.
Une très belle journée avec Christophe Méné comme invité principal de l'émission. Vous pouvez rester au lit, on est avec vous.
Radio Nova.
Une nouvelle...
C'est consternant. On se regarde avec Christophe. On se dit, est-ce que c'est arrangé dans la catégorie presque rien, catégorie je ne sais quoi, catégorie ça aurait pu être un sketch avec un peu de travail. On ne sait pas. Enfin, ça a eu lieu. Pardon, Thierry, bonjour, ça va bien?
Il n'y a pas de souci, bonjour. Ouais.
T'es là depuis... Il paraît que tu as une émission avant de 6h à 7h.
À partir de 6h,
on ne me dit rien. Moi,
à partir de 6h,
bien sûr,
tu sais bien. Barack Obama a refermé sa présidence hier sur le... Enfin, hier, c'était cette nuit, en fait, hein, sur la même note d'espoir qu'il l'avait amorcé. Il a organisé hier sa dernière conférence de presse. Il y a une décence fondamentale dans ce pays, a-t-il dit. Je crois en ce pays, je crois dans le peuple américain, je crois qu'il y a plus de bons que de mauvais chez les gens. Des choses tragiques arrivent, mais si nous travaillons dur, le monde s'en porte mieux à chaque fois. Une maxime familiale en résume sa philosophie. La seule chose qui soit la fin du monde, c'est la fin du monde. Et toujours à propos des États-Unis.
La seule chose que la fin du monde, c'est
la fin du monde.
Ah, attention, la chance qu'Atman ne soit pas là, parce que là, on vous dirait...
Il y a eu une nouvelle exécution aujourd'hui aux États-Unis, ça s'est passé cette nuit, ça s'est passé en Virginie. Le jeune homme qui a giflé Manuel Valls à Lamballe dans les Côtes d'Armor a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Hein. Parfois, la justice, elle travaille très très vite. Il a eu aussi 105 heures de travail d'intérêt général et puis 1 euro de dommages et intérêts à verser à Manuel Valls. L'homme est âgé de 18 ans, donc il a été jugé coupable de violence volontaire sans incapacité de travail avec préméditation.
Mais travail d'intérêt général, ça veut dire qu'on va le croiser, c'est lui qui va faire traverser les gamins dans les rues. Moi, j'ai pas envie du tout que ce soit lui qui fasse traverser ma fille devant l'école.
D'accord, ce sera peut-être pas devant l'école
ouais,
de ta fille.
D'accord, ouais.
Troisième et dernier débat ce soir de la primaire de la gauche, ou plutôt du PS, hein, puisqu'elle va vraisemblablement désigner le candidat qui défendra les couleurs socialistes à la présidentielle. Le premier tour de la primaire organisé par le PS n'a pas encore eu lieu, que déjà Jean-Marc Ayrault prend ses distances. Hein, il lance un avertissement à ses camarades. J'espère que le candidat socialiste sera capable de créer la dynamique. Sinon, il faudra se poser la question de savoir où est la dynamique. Depuis le forum de Davos, le directeur général de HSBC, Stuart Gulliver, a confirmé dans une interview à Bloomberg Television jeune qu'avec la sortie du marché unique du Royaume-Uni, 1 million d'emplois à Londres devraient être déplacés à Paris. Le record de chaleur sur Terre a été battu l'année dernière pour la troisième année consécutive. Un millier d'emplois.
Ah oui, quand même. Là,
un millier d'emplois. Mais j'ai pas dit 1 million. Hein.
Vous avez dit 1 milliard. Mais HSBC, c'est pas eux qui font des trucs bizarres dans la forêt. Bon, d'accord.
Le record donc de chaleur battu sur Terre l'année dernière pour la troisième année consécutive. L'Arctique a connu l'an dernier ses 12 mois les plus chauds. Depuis le début des relevés de température dans cette région, c'était en 1900. Quant à l'Antarctique, la superficie annuelle moyenne des glaces sur l'océan a été la deuxième plus petite dans les annales, avec 11,1 millions de kilomètres carrés, se réduisant à des niveaux sans précédent en novembre et en décembre dernier. Il y a un ermitage, ou une petite maison reculée à Saalfelden, c'est en Autriche, qui recherche son prochain occupant. Le site se trouve à 1400 mètres d'altitude, accroché à une falaise. Alors, il offre une vue imprenable sur les Alpes. Bon, en revanche, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Depuis sa création, il y a 350 ans, cet ermitage a été occupé presque chaque année. Mais là, ça ne va pas, il y a un problème, parce que personne ne veut y aller. La mairie, donc, a décidé de lancer un appel à candidature pour ce poste qui est, précisons-le, non rémunéré. Si vous êtes intéressé, sachez que vous avez jusqu'à jusqu'au 15 mars pour postuler.
J'ai pas compris cette info du tout.
Il y a une petite maison qui est sur une falaise, qui est perdue, sans eau, sans électricité, et il faut quelqu'un pour l'occuper.
Vous avez réussi à glisser ça entre 40 morts là, 3 attaques là, un tsunami là, vous êtes fort. À mon avis, c'est des copains à vous.
Et le réalisateur franco-polonais Roman Polanski présidera la 42e cérémonie des Césars le 24 février à la salle Pleyel. C'est un choix qui fait déjà polémique. Hein. 2 mois et demi plus tard, les premiers marins du Vendée Globe s'apprêtent à toucher terre. Les Sables d'Olonne sont quasi en vue pour Armel Le Cléache et Alex Thompson. Les deux principaux héros du Vendée Globe s'apprêtent à en finir de cette redoutable course à la voile en solitaire sans assistance. Armel Le Cléache est toujours en tête hein, ce matin devant Alex Thompson. Il y a beaucoup de monde sur place.
Et puis un scooter à vendre par un cousin de Thierry Paret qui cherche à vendre son scooter. 3000 km au compteur pour seulement 1 700 €. Faire suivre en MP, comme on dit quand on est jeune.
Le mondial de handball, la France rencontre le Japon aujourd'hui, mais la France est déjà qualifiée pour les 8e de toute façon. Et c'est pas le Japon par ailleurs, c'est la Pologne. Et puis la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, avec la deuxième journée du groupe A. Hier soir, le Cameroun a battu la Guinée-Bissau 2-1, tandis que le Gabon et le Burkina se séparaient sur un match nul. Un partout au classement. Le Cameroun est en tête, 4 points, suivent le Gabon et le Burkina, 2 points. La Guinée-Bissau ferme la marche avec 1 point. Au programme ce soir, la deuxième journée du groupe B, avec le choc Algérie-Tunisie. Et puis le Sénégal, de son côté, va affronter le Zimbabwe, le Sénégal qui est premier de son groupe.
Et puis bon anniversaire, Tati Françoise. Tati Françoise, qui est la Tati de Thierry Paret, qui l'a vu naître, qui s'est baladé avec lui en montagne. Voilà, ça fait partie des informations générales. Ah, t'es fort, mon Titi. Des appels, oui.
Oui, allô, allô.
Oui, oui, c'est Tatmène Khalif.
Oui, c'est ça, c'est lui-même, c'est la Mémène.
D'accord.
Alors, je voulais savoir, je prenais un petit peu la température. Est-ce que ça vaut le coup que je vienne là? Est-ce que je suis à tomber?
Le type qui... Non, je crois qu'il y a une... Franchement, Tatmène, je vous dis,
il y a un vrai désir, une demande, un désir, une envie.
Il y a des auditeurs, il y a une impatience, il y a une anxiété. Je ne vous cache pas qu'il y a des gens chez eux qui disent quel avis sur Tatmène Khalif au micro de Radio Nova.
Est-ce que ma petite place attend? Est-ce que c'est balayé? Est-ce qu'il y a
C'est préparé, c'est chauffé, c'est vraiment...
Parce que je prenais la température pour savoir si j'étais vraiment désiré.
Bon, alors écoute-moi bien, Coco, maintenant. Écoute-moi bien. Tu ne vas pas me faire chier des heures. Tu es à 3 mètres d'ici au standard. Christophe, allez le chercher. Allez le chercher. À tout de suite avec vraiment un panel de chroniques. Ça va être de haute qualité. À tout de suite.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi?
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Ne vous mettez pas la pression, on peut tout à fait commencer l'émission calmement, lentement. Hein, avant les invités, avant les chroniques, avant Jacques Souvent dans la rue, on peut tout à fait dans une sorte d'entre-soi, mais ouvert sur l'extérieur.
Tout à fait, hein, ouvert, délicatement.
Voilà, acquiescer, ça me va très bien, que vous êtes d'accord avec moi. Vous avez vu des choses déjà ce matin dans la presse, sur le net?
Oui, j'ai vu qu'il y avait une guerre entre Amazon et l'Inde à base de paillassons.
C'est quoi l'Inde?
Ah, l'Inde, le pays, l'Inde, pardon. C'est un pays, plutôt un grand pays.
Oui, non, parce que comme Amazon et l'Inde, il n'y avait pas de...
Quelques petites personnes dedans. Et alors, le problème, c'est que le drapeau en Inde est sacré, qu'il y avait un paillasson à l'effigie du drapeau indien qui était vendu sur Amazon. Gros incident diplomatique. L'Inde a menacé Amazon de retirer les visas à tous les employés d'Amazon. Amazon a retiré le paillasson. 2 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Des zélés nationalistes indiens continuent à fouiller Amazon, trouvent des tongs à l'effigie de Gandhi et hop, c'est reparti pour un tour. Mais heureusement, Amazon a été plus rapide cette fois et a enlevé très vite les tongs. Maintenant, dans le collimateur, sont les skateboards avec ganache dessus.
Eh bien, Thierry Paret aussi a été plus rapide parce qu'il l'avait évoqué hier, Marie.
C'est pas vrai. Et merde. Vrai.
Christophe?
Ouais, moi j'ai lu une information. Quand la baignade entre en scène, c'est dans le Parisien. Donc on va bientôt nager dans la Seine. Voilà. Et cela sera possible si la qualité de l'eau l'y autorise. Donc ils ont pour projet que ça se fasse pour les JO de 2024.
Ah, vous êtes parisien, il y a d'autres villes en France, Christophe.
Bah oui, mais là, je disais le Parisien, c'est pas...
Eh ben, lisez le Tourangeau. Hein?
Ah oui.
Alors, Atmen,
oui, moi,
n'attendez pas de moi que je sois sympathique.
C'est vrai. Mais il y a longtemps qu'on n'attend plus. Je préfère le dire comme ça. Ça fait des années. Non, ce soir, il y a le 22-11-63. Ça vous évoque quoi?
Le 22 novembre 63.
Kennedy.
Voilà, Assassinat de Kennedy. Il y a une série qui démarre ce soir, écrite par Stephen King.
Redemandez-moi.
Alors, le 22-11-63, ça vous
évoque... l'assassinat de Kennedy à Dallas.
Formidable, vous avez gagné. Ouais. Et donc,
je me rappelle ces images où Jackie Kennedy, comme ça, debout sur le cabriolet de son fils.
Allait ramasser sa cervelle, vous le saviez,
oui,
ça.
Oui, bon.
Voilà. Bon, et voilà.
Et donc,
il y a une série qui démarre ce soir, écrite par Stephen King. Voilà, moi, Stephen King, c'est mon ami, parce que je sais qu'il a racheté tout son village après qu'on l'ait accusé... de prendre des substances, et il a dit, le village avait demandé à ce qu'il s'en aille, ce qui gênait. Il a dit ok, alors il a racheté toutes les maisons, et maintenant il fait ce qu'il veut. et il a son village.
Alors, soyons précis, c'est votre ami, mais lui n'est pas au courant.
Lui n'est pas au courant, voilà, c'est ça.
Comme ça, il n'est pas encombré par cette amitié. Armelem, je vous ai vu beaucoup plonger dans le journal au lieu de me chercher des fonds musicaux ce matin.
Eh ben, j'ai fait ce choix. J'étais très étonné car on est tous très sportifs ici en studio et les Français ne font pas assez d'activité physique, lemonde.fr. Il faut faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. 10 000 pas.
Alors, est-ce qu'il faut les compter, ceux qui n'ont pas un compteur à leur montre ou leur portable?
Il faut compter.
Compter dans sa tête.
Ça prend du temps.
Je le fais toujours, moi.
10 000 pas, c'est pas beaucoup. Hein.
En comptant un mètre par pas, 10 km, non.
Ça fait moins que ça, 8 km environ par jour. Les Français font 7 889 pas en moyenne par jour, donc ça va pas.
Alors, on n'est pas obligé de partir en forêt, on peut faire des allers-retours vers son frigo. Hein.
On peut faire les 100 pas aussi.
Voilà. Oh, très joli. Ça va être quoi, votre son, Charlène, ce matin?
Des câlins.
Un truc sur les câlins, on le met maintenant ou pas?
Oui.
On l'a, là, ou pas?
On l'a.
Voilà, très bien. Eugénie, vous êtes arrivée à quelle heure ce matin?
7h.
Pourquoi si tard?
Ne sais pas.
Si, moi je sais, moi. J'imagine.
Alors, on a les câlins. Alors, un petit, voilà, des câlins du matin.
Allô, allô, mon vieux, ça ne va pas?
Vous voulez un...
Un quoi?
Je sais pas, un câlin.
J'ai froid, je suis tout mouillé.
C'est pas ta faute.
Mmh. Regarde comme il est trognon, pauvre petit père.
Sois rassuré, je suis là maintenant.
Ça va aller?
Je crois, oui.
Vous êtes si gentil.
Voilà, c'est fini.
Ça fait du bien.
7h-9h, plus près de toi.
Au revoir.
Entre le silence et le coup de poing dans la gueule, il existe une tradition d'échange, de rencontre, qu'on appelle la conversation. La conversation est-elle un art de vivre à la française? Est-elle une universalité de la rencontre, de l'échange et du cheminement à plusieurs? Nous allons le savoir grâce à nos invités. Bonjour Ali Ben Makhlouf.
Bonjour.
Bonjour Guillaume Villemot.
Bonjour.
L'un et l'autre, vous êtes de part et d'autre de cette table. L'un est professeur de philosophie, auteur de « La conversation comme manière de vivre » aux éditions Albin Michel. Et Guillaume, vous êtes notre ami, vous êtes cet animateur des zèbres, ce montreur d'animal. Face à vous, la fine fleur de notre équipe, Thomas Baumgartner, bonjour.
Bonjour Edouard, bonjour Guillaume Villemot, bonjour Ali Ben Makhlouf.
Bonjour.
Oui, ça paraît peut-être un peu évident pour, quand on est comme ça dans un studio de radio, de parler de conversation, puisque c'est un peu ce qu'on fait à longueur de journée, et finalement questionner la conversation, ce qui est votre cas, Ali Ben Makhlouf, dans ce livre, La conversation comme manière de vivre, qui est paru en septembre chez Albin Michel, et ce qui va être le cas dans une conversation publique, cette fois, entre vous deux, rue des Écoles à la brasserie Balzer le 21 janvier.
Après-demain, de 15h30 à 17h, 49 rue des Écoles.
Et c'est dans la foulée du festival des conversations dont vous vous occupez, Guillaume Villemot. Questionner la conversation, finalement, c'est questionner une manière d'être ensemble, Ali Ben Makhlouf, non?
Oui, tout à fait. Montaigne disait qu'on tenait les uns aux autres par la parole. Et cette façon de tenir par la parole, c'est vraiment l'échantillon type, je dirais, le paradigme de la conversation.
Dans votre livre, d'ailleurs, ça s'ouvre par une citation de Montaigne et aussi par dans cette citation de Montaigne, il fait un parallèle avec le jeu de paume, la conversation comme un sport.
Ben oui, parce que en réalité, il dit que la parole appartient moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute, moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l'écoute. Et en fait, quand vous envoyez une parole, vous savez pas comment l'autre va la recevoir. C'est exactement comme une balle. Comment l'autre va la recevoir? Il se déhanche, il recule, il avance. Et c'est pourquoi il est très important de laisser cette part d'imprévisibilité à la conversation pour que l'autre ait pleinement sa part, sinon on parle avec soi-même.
Guillaume Villemot, faire ce type de conversation avec Ali Ben Makhlouf, c'est une manière de revenir aux fondamentaux de ce festival dont vous vous occupez?
Oui, c'est redonner envie aux gens d'aller se prendre le risque d'une conversation, d'aller se mêler à une conversation, d'aller apporter sa brique. Ce que vient de dire Ali, c'est que c'est effectivement, la conversation, c'est quelque chose d'excessivement généreux. Et donc c'est un moment de partage avec un début, avec une fin, parce que je pense que c'est important de savoir toujours terminer une conversation, mais qu'il y a cette magie de on sait où on démarre et on ne sait pas forcément comment on va faire pour arriver à l'arrivée. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui nous manque aujourd'hui dans la société dans laquelle on est, c'est que ce manque de conversation fait que par moments on s'isole de plus en plus les uns des autres et que quand on considère aujourd'hui par moments qu'un regard peut être une agression, un mot peut aussi être encore plus violent pour certaines personnes. Donc il faut redonner envie aux gens ou la gourmandise de la conversation pour les gens.
Alors la conversation, contrairement à l'impression qu'on a, c'est justement quand on n'est pas d'accord. C'est commencer à discuter parce qu'on n'est pas d'accord et être intéressé par l'opinion contraire, non ?
Alors ça, c'est plutôt la dispute ou la joute verbale. Et la conversation, ce n'est pas véritablement s'ancrer dans le d'accord, pas d'accord, le dissensus. C'est beaucoup plus, comme vient de le dire Dominique,
Dominique Guillaume. Oui, il y a un désaccord sur les prénoms aussi. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien aussi. En plus, c'est bien fait parce que vous donnez raison à quelqu'un d'autre qu'à
non,
moi.
Mais j'ai un grand handicap, c'est les noms propres.
Donc, vous dites que c'est beaucoup plus, ça n'est pas le désaccord.
Non, c'est une réciprocité magnétique, comme vient de le dire Guillaume Vimo. Une réciprocité magnétique parce qu'on prend le risque véritablement de mettre les choses moitié-moitié. Et cette forme de réciprocité nous éloigne beaucoup de la dispute où on cherche la polémique. À la limite, on pourrait dire, on garde la dispute, l'exercice du disputant. C'est-à-dire, c'est fait vraiment pour exercer son jugement. Donc, on converse pour véritablement bien animer ses neurones. Ça, certainement, mais pas pour disputer.
Ali Ben Mekhlou, vous parlez d'une ivresse de la conversation.
Oui.
Il y a comme un vertige. Ça revient souvent, d'ailleurs, dans votre livre, ça.
Oui, c'est un parler ouvert, dit Montaigne, comme le vin et l'amour. Alors effectivement, comme le disait Guillaume, il n'y a pas de fin préétablie à la conversation. On ne sait pas où elle nous mène, mais dès lors qu'elle est faite, si je puis dire, en bonne foi et en toute confiance, c'est au gain et au plaisir des deux. Et il y a effectivement une forme de saveur et de plaisir dans la conversation dès lors qu'on en prend le risque.
Alors vous faites une forme de... dans votre livre, une forme d'historique assez littéraire d'ailleurs, la conversation dans la littérature ou en tout cas dans le texte, et comment parfois vous dites que Roland Barthes considérait qu'il conversait avec les textes, mais vous remontez loin, mais pourquoi aujourd'hui justement ce livre ? C'est-à-dire que se dire pourquoi aujourd'hui il est important de questionner cette conversation qui, comme disait Guillaume à l'instant, peut manquer parfois ?
Ben écoutez, tout le monde sait que les réseaux sociaux se développent d'une manière hyperbolique. La Cour de cassation vient de reconnaître qu'on n'a pas de véritable ami par les réseaux sociaux, par
quoi?
Facebook. Oui, tout à fait. Ce ne sont pas des amis véritables, dit le droit.
C'est très drôle que le droit intervienne dans la vie.
Non, c'est pas... Non, oui, enfin non, bon, non, c'est, ça c'est dire. Un débat qui ne serait pas une conversation. Mais il me semble qu'aujourd'hui, justement, il est important de maintenir des formes de liens pour marquer ce que nous avons en commun et en partage, plutôt que des mondes isolés et des mondes fragmentés, des mondes incommensurables qui ne communiquent pas. La conversation, c'est véritablement mettre en circuit une parole pour que les hommes se considèrent moitié les uns des autres.
C'est un art de passer du temps ensemble ?
Non, ça serait
le
bavardage.
Vous dites non tout le temps, genre, moi, je n'ai que des noms depuis le début.
Non, ça serait le bavardage ou le café de commerce. Non, c'est pas passer du temps, ou alors dans ce cas, passer du temps au sens fort de tout ce qui est comme la poésie, l'art de savoir passer du temps sans... sans être dans la performance. Oui, dans ce cas-là, je vous dis oui et
merci.
Non pas non.
Alors, ce n'est pas passer du temps, mais c'est passer le temps de l'autre aussi. C'est se confronter au temps de l'autre, trouver un temps commun en tout cas.
Essayer de trouver un temps commun parce que c'est un prélude pour combattre pour ses propres droits. Je cite à un certain moment James Agee qui avait écrit « Louons maintenant les grands hommes » où il a essayé de voir dans cette Amérique profonde de l'Alabama en 1936 comment les métayers étaient complètement reclus, écartés, pieds nus, subissant encore la crise de 1929. Et il a dit « C'est par la conversation avec eux, on m'a envoyé par le New York Times de faire un entretien avec eux, et j'ai tout de suite compris que ce n'était pas un entretien que j'allais faire, mais d'abord une conversation au sens où j'allais partager jusqu'à un certain degré leurs conditions de vie pour établir une forme de conversation, de lien qui ne les mette pas dans une catégorie, ils sont métayers, ils sont la classe pauvre, mais ce sont d'abord des êtres humains avec lesquels il est parvenu en quelque sorte à rehausser le niveau de revendication pour qu'ils ne renoncent pas à leurs droits civiques.
Alors, Guillaume Villemot, qu'est-ce qui va se passer après-demain à 15h30, 49 rue des Écoles, dans le 5e à Paris? C'est une conversation collective avec Ali Benmoukouf?
C'est une conversation ouverte, c'est-à-dire que c'est, le principe, c'est que tous les deux mois, on organise une conversation là pour redonner envie aux gens, effectivement, d'investir des lieux qui étaient des endroits dans lesquels on conversait, qui étaient les cafés,
oui.
Particulièrement en plus en face de la Sorbonne. Je trouve qu'il y a une certaine symbolique par rapport à ce qui a pu se passer il y a quelques années. Et c'est de montrer comment aujourd'hui, effectivement, ces conversations sont importantes parce qu'il y a plein de fenêtres de conversation à notre disposition et on ne les maîtrise pas complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut servir des réseaux sociaux dans lesquels on n'a pas forcément des amis, mais comme étant des espaces de conversation. Encore faut-il pouvoir les dominer et pas les subir. Et donc tout l'enjeu, c'est de, encore une fois, c'est de donner envie, donner non pas des clés, parce que je ne pense pas qu'on ait des clés, parce que c'est plus compliqué que ça, mais c'est donner des petits bouts de conversation que les gens ont envie de prendre et repartir avec. Tout simplement.
Des clartés de tout.
Voilà.
Merci Ali Benmoukouf, merci Guillaume Villemot.
Merci à vous.
La conversation n'est pas le bavardage, la conversation n'est pas la dispute. La conversation n'est pas le silence. Mais c'est quoi? Je n'ai pas compris, moi. Mais on peut partir, c'est bien, par exclusion. C'est le 21, c'est après-demain, c'est de 15h30 à 17h. C'est au Balzar, rue des Écoles. Et le livre d'Ali Benmoukouf s'appelle « La conversation comme manière de vivre » aux éditions Albin Michel. Je le fais, le travail. Vous devriez le faire, vous me gardez. Moi, je n'ai pris qu'un café. Merci, messieurs.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Oui, c'est racoleur. On va... Thierry, vous avez déjà dit le journal à 7h, on peut le refaire à 7h30, parce que souvent, ce ne sont pas les mêmes auditeurs.
C'est vrai.
J'ai tous mes calculs la tête. Je lis beaucoup, beaucoup de paperasse avec des diagrammes, des chiffres, et puis voilà.
Par contre, c'est les mêmes infos.
Oui. Ah bon?
Ah oui, c'est
bon.
Pas non plus changer tout le temps. Hein. Donc il y a un ermitage en Autriche.
Ah non,
c'est
non,
une blague, c'est une blague, ça va, ça va. La dernière conférence de presse de Barack Obama, le président américain a refermé sa présidence sur la même note d'espoir qu'il l'avait amorcée. Il y a une décennie fondamentale dans ce pays, fondamentale dans ce pays, c'est ce qu'il a dit. Je crois en ce pays, je crois dans le peuple américain, je crois qu'il y a plus de bon que de mauvais chez les gens. Des choses tragiques arrivent, mais si nous travaillons dur, alors le monde s'en porte mieux à chaque fois. Une maxime familiale résume sa philosophie. La seule chose qui soit la fin du monde, c'est la fin du monde. Toujours aux États-Unis, il y a une nouvelle personne qui est décédée, qui a été tuée, qui a eu la peine capitale, comme on dit. Ça s'est passé en Virginie, hein, condamné à mort, exécuté en Virginie. La Cour suprême des États-Unis avait rejeté peu avant son ultime recours. Comme quoi la justice peut être très rapide, hein. Le jeune homme qui a giflé Manuel Valls à Lamballe, dans les Côtes-d'Armor, a été condamné à 3 mois de prison avec sursis, 105 heures de travail d'intérêt général, et puis 1 € aussi de dommages et intérêts.
Je n'aime pas votre petite ironie, comme quoi la justice peut être rapide. Hein.
Oui.
J'aime pas ces petites choses cachées que vous mettez dans votre journal.
Et pour 1 €, on peut prendre une gifle.
Oui, vas-y, Atman, sortez du journal.
1 €.
Ouais. Âgé de 18 ans, donc il a été jugé coupable de violence volontaire sans incapacité de travail avec préméditation. Troisième et dernier débat ce soir de la primaire de la gauche. Le premier tour de cette primaire n'a pas encore eu lieu. Que Jean-Marc Ayrault, lui, prend ses distances et lance un avertissement à ses camarades. J'espère que le candidat socialiste sera capable de créer la dynamique. Sinon, il faudra se poser la question de savoir où est la dynamique. Depuis le forum de Davos, le directeur général de HSBC, Stuart Gulliver, a confirmé dans une interview à Bloomberg Television qu'avec la sortie du marché unique du Royaume-Uni, 1 millier d'emplois à Londres devraient être déplacés à Paris. L'Australie n'en peut plus des chats. On estime à 20 millions le nombre de chats sauvages qui vivent dans le désert et dans la forêt tropicale. Et ils n'ont rien du paisible animal de compagnie que nous connaissons sous nos latitudes. C'est l'une des espèces invasives les plus destructrices. Bref, les autorités australiennes ont décidé d'abattre 2 millions de chats.
Oui, mais c'est pas les chats de chez nous. Hein.
Oui, c'est pas mignon.
Attention,
c'est pas le miaou.
C'est pas le miaou.
Miaou, miaou. Non, c'est un miaou plus agressif.
Oui, voilà, c'est plus ça. C'est plus ça.
Puis les chats qui sont qui vont.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Et le poil.
C'est plus ça. Et puis ils sont 2 à 3 mètres aussi. C'est pas.
Oui.
C'est ça.
Et en forfait litière, il y a du monde, je peux vous dire.
C'est dans des. Oui, enfin.
D'accord. Le record de chaleur sur Terre, il a été battu l'année dernière pour la 3e année consécutive. Armel Lecléache poursuit sa route sans souci ce matin vers la ligne d'arrivée du Vendée Globe, qu'il devrait couper en fin d'après-midi, normalement, si tout se passe bien. Il est plus trop inquiété par Alex Thompson. Hein.
Comment ils sont là? Vous croyez qu'ils sont seuls dans la mer? Ils ne dorment pas du tout?
Oui, je pense qu'ils dorment pas. De toute façon, ils dorment pas beaucoup.
Ils dorment pas. Ils ont des conserves, ils s'amarrent.
Non, mais attends, mais est-ce que je suis skipper, moi?
Tu peux t'intéresser à autre chose qu'à ton petit monde.
Il te pose gentiment la question. Gentiment? Ah non, c'est là où on vient de l'avoir.
Est-ce que
sur la conversation,
est-ce que
je suis sur un bateau? Est-ce que je me suis vomi dessus?
Est-ce qu'on a fini le journal?
Non, le mondial de handball aussi, dernier match de poule pour l'équipe de France qui va affronter la Pologne tout à l'heure. Match sans enjeu puisque la France est déjà qualifiée pour les 8e est sûre de finir première de son groupe. Et puis quand même, un mot de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les étalons ont neutralisé les Panthères hier soir. Traduction, le Burkina a réussi à faire match nul un partout face au Gabon, qui organise la CAN. De son côté, le Cameroun a battu la Guinée-Bissau 2-1. Au programme aujourd'hui, deuxième journée du groupe B avec le choc Algérie-Tunisie. Et puis le Sénégal va affronter le Zimbabwe, le Sénégal qui est premier de ce groupe.
C'est dommage parce qu'il est... Oui. Moi, ça a décrédibilisé l'info.
Déjà, c'est dommage.
Que Thierry soit sorti de son personnage, de son rôle, de son identité.
Il a débordé.
Il s'est commenté, il est parti dans l'humour. Et ça, je trouve que c'est dommage. Parce que l'époque n'a pas besoin. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont dans le drôlatique, dans la saillie, dans le pouet-pouet.
Trop
dans
d'humour,
le
tue l'humour, je dirais.
Et moi, j'avais besoin peut-être d'un guide, j'avais besoin de quelqu'un qui...
Qui donne la lumière.
Qui m'informe, qui apporte la lumière, le Umba.
Redites-le parce que...
Le Umbahé, celui qui apporte la lumière, comme l'a fait l'électricité, mais de l'âme, du cœur. Oui. Et là, j'ai eu une sorte de comme ça, le personnage, oui, le pétomane. Voilà. Alors, on part dans la rue avec Jacques Sourd. Déçu.
Non, mais on est allé au bal d'abord, tout ça. Ouais. C'est des trucs. Allô ?
Oui, allez-y, Marie. Si on vous dérange, vous le dites.
Là. Hein, on est sous un parasol et je suis place de la Nation. Il se passe plein de choses. Il y a un monsieur qui raconte ses trucs dans la bonjour. Voilà. Donc il y a plein de gens qui distribuent des tracts, des prospectus, des journaux, etc. Et puis il y a un monsieur qui raconte son histoire ici. Puis je suis avec Gaspard qui est un. Vous êtes quoi ? Vous êtes
porteur de journaux. Colporteur de journaux.
Ouais, mais vous êtes aussi performeur. Vous me disiez vous étiez au squat rue de Rivoli.
Ben oui, mais Edouard est venu une fois il y a 10 ans au squat de Rivoli.
Ben c'est Gaspard Delanoë.
Ah ben voilà ! Bonjour Edouard, comment ça va ?
Ben Gaspard.
Ben oui, Edouard.
Mais qu'est-ce que tu fais à 7h36, place de la Nation avec des prospectus ?
Ah non, c'est pas des prospectus. Je suis colporteur de journaux depuis 14 ans pour un journal que je ne peux pas nommer parce qu'il paraît qu'on n'a pas le droit de nommer les journaux.
Bon, tu fais ce que tu veux.
Bonjour Edouard. Ça va.
Mais Gaspard Delanoë, il avait monté ce premier grand squat artistique de la rue de Rivoli, puis tu t'étais présenté aux élections, profitant d'avoir le même nom que le maire de Paris.
C'est exactement cela, et là je suis avec un monsieur qui me tend un micro et qui me dit qu'il est pour le ralentissement de la vie, et je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, moi j'avais proposé la création de montgolfières dans Paris pour transporter les gens de la gare Saint-Lazare à la gare de Lyon.
Alors tu es dans la grande tradition des candidats à la municipalité un peu originaux, comme celui qui voulait poursuivre le boulevard Saint-Michel jusqu'à la mer, afin que ça soit plus facile d'accès.
Oui, il s'appelait Ferdinand Lope.
Absolument.
Et son programme, c'était, il y avait les prolopes et les antilopes.
Ouais. Oh. Qu'est-ce que tu avais d'autre à ton programme à l'époque, Gaspard ?
Eh bien, je voulais raser la tour Montparnasse.
Oui.
Bon, je trouvais ça sympa comme programme. Et sinon, il y avait la création de 1500 stations Célib. Les stations Célib, c'est qu'il y a des célibataires qui sont attachés et la première demi-heure d'utilisation est gratuite.
Gaspard, je me rappelle plus à l'époque, tu avais été élu ou pas ?
J'ai failli être élu, je suis passé au premier tour ric-rac.
C'était à 5 millions de voix près, je crois que tu étais élu, tu avais dû avoir une vingtaine de voix, quoi. Oui, c'est
vrai. Non, j'avais eu 802 voix.
Ça tient à rien. Ben oui, 802 voix, c'est plus de personnes qu'on croise dans une journée. Gaspard, écoute, c'est formidable de tomber sur toi. Alors.
C'est incroyable. Et Edouard, je voulais t'envoyer un petit mail parce que je viens de sortir un livre qui s'appelle Autoportrait.
Non, alors ça, non. Ça,
non.
Ça, non. Ça, non. Ça, non.
La littérature, ça n'est pas.
Non, là, c'est pas des consonnes, pas, des voyelles, non. Non, bah, passe-nous voir un jour. Passe-nous voir. Demande les coordonnées. Viens tout à l'heure. T'as qu'à débarquer à Nova, là, si t'as le temps, d'accord? Allez, à tout de suite.
Ouais, voilà. Processus de ralentissement du monde et puis le projet de Montgolfière. C'est curieux hasard, hein.
Réchauffez-vous, Jack. À tout de suite.
Tout à l'heure.
Oui, faisons ça.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Il doit avoir une bonne hygiène de vie, Michel Simès. Il doit déjà être debout depuis longtemps. Il doit avoir fait de la gym. On va voir.
Oui.
Le réveil d'un monument.
Vous pouvez pas laisser pioncer les gens le matin, non ?
Réveillons un monument national.
Il nous soigne, il nous rassure, il nous accompagne, médecin des corps et des âmes. Michel Simès est l'un des Français préférés des Français. Bonjour Michel.
Bonjour Edouard.
Michel, vous savez, quand on se réveille le matin, on culpabilise, on a l'impression de ne pas s'être bien nourri la veille, de ne pas avoir fait les exercices qu'il fallait. Je me suis dit que vous aviez beau être médecin, je pense qu'il y a un homme derrière. Est-ce que cet homme, lui aussi, une façon de vivre un peu hygiéniquement contestable.
Alors, je viens de me retourner, je n'ai pas d'homme derrière.
Oui.
Déjà, avec oui. Edouard. Je ne sais pas à quoi vous pensiez. Et moi, j'ai une... quand je me réveille derrière, ça vous dit jusqu'où on va. J'ai une hygiène de vie qui est effectivement incontestable.
Alors, le réveil sonne chez vous, Michel, il est quelle heure?
Le réveil ne sonne pas, Edouard. Je dois avoir une horloge dans la tête oui. parce que le matin, je me réveille toujours tout seul entre quand j'ai beaucoup de travail et que ça cogite 5 heures et sinon 6 heures du matin, mais jamais, je n'ai jamais besoin de réveil, quelle que soit l'heure à laquelle je me couche.
Donc ouais. vos yeux s'ouvrent et tout à coup la joie d'être au jour, la joie d'être réveillé.
La joie de ma femme à côté.
Est-ce que Madame Simès dort encore ou c'est un réveil
Non, oui, ah oui, quand je me lève à 5 heures du matin, Madame dort encore ou à 6 heures aussi, et j'essaye d'être le plus discret possible.
C'est tout à votre honneur, Michel.
Je fais tout mon possible pour garder ma femme le plus longtemps possible également, et je sors de la chambre le plus discrètement possible. Elle se réveille immédiatement parce que voilà, je ne dois pas être assez discret. Mais c'est vrai que cela dit, pour être sérieux, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que par exemple, je reviens du Brésil. Là, j'étais en tournage pendant 10 jours, donc je suis complètement décalé. Mmh. Et ben, ça m'empêche pas. Je me suis réveillé hier à 3h du matin, alors que j'aurais dû, au contraire, rester au lit plus longtemps. Je ne sais pas ce qui m'arrive.
Vous avez quitté votre île, à Michel?
Là, je viens de sauter du lit pour vous parler, pour avoir une voix à peu près normale. C'est quand on est couché, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, mais quand on est couché, le souffle est moins bon pour parler. Oui.
Michel, rallongez-vous.
Oui. J'ai peur ce que vous allez me demander.
Non, c'est pour vraiment être dans cette intimité, mieux comprendre votre chambre, votre intimité.
Je suis nu, couché.
Très bien. Je vous remercie. Est-ce que la nudité chez vous... c'est grâce à une très bonne chaleur, à un bon chauffage ou simplement à un odeur douillet?
Je suis nu dans mon lit tout le temps, quelle que soit la température extérieure.
Je comprends, Michel, c'est une discipline du corps et de l'âme. Michel, vous entretenez un bon rapport avec votre corps? Est-ce que vous l'acceptez en pleine lumière ou est-ce que vous êtes déjà dans le secret? Vous voyez le temps passer, tout à coup, vous pensez qu'il faut le voiler, ce corps, ou le faire apparaître seulement
écoutez,
à certaines
Edouard,
heures de la nuit?
À oui. chaque fois que je me regarde, je me demande pourquoi Dieu m'a tout donné.
Je comprends.
J'ai une sorte de corps de rêve. Je le dis en toute modestie.
Bien sûr, Michel, aucun problème. Bien sûr.
Mais en même temps, avec beaucoup de lucidité. Je me regarde dans la glace, je me dis pourquoi moi. Et je fonce immédiatement faire ma séance de gym afin d'entretenir cette perfection anatomique et corporelle.
Michel, est-ce que vous êtes le genre d'homme qui, sur un malentendu et mal réveillé, en vous voyant dans la glace, peut croire que c'est quelqu'un d'autre et avoir envie de le séduire, cet autre?
Ça m'est arrivé.
Oui.
Ça m'est arrivé en me disant, mais c'est pas possible que ce soit moi à ce point-là. Et en fait, je pense que je suis dans un demi-sommeil. Je rêve d'être dans le corps d'un autre.
Oui.
Et très vite, je suis confronté à la réalité. Et très vite, je m'aperçois que c'est bien que ce corps de rêve m'appartient.
Michel, ce corps est forcément entretenu par de la discipline, mais lorsque vous êtes au lit, on est plutôt sur un matelas, on est mou, on est sur du mi-mou, on est sur du mi-dur, on est sur du... Quel type de matelas? On est sur du... Il y a de la plume, il y a des ressorts, il y a quoi? Il y a des lattes?
Le mot mou ne fait pas partie de mon vocabulaire.
Oui, mais ben je vous l'apprends, je suis content.
Ben tout est dur.
Très bien. Donc, et l'oreiller lui-même, Michel, vous dormez sur des surfaces...
Alors, je dors sur un oreiller qui est peut-être, effectivement, et là, j'en prends conscience en vous en parlant, d'une relative mollesse.
On peut parler d'ergonomie, oui?
Non, pas ergonomique, mais c'est vrai qu'un oreiller dur entraîne des douleurs cervicales. Donc, la seule chose qui soit relativement demi-molle dans ma chambre, c'est l'oreiller.
Ensuite, vous vous levez, Michel. Est-ce que vous êtes l'homme qui fonce vers sa salle de bain ou qui fait un arrêt croissant, un arrêt café, un arrêt méditation?
Alors, le lever est accompagné immédiatement d'une évacuation vésicale.
Oui, qui est recommandée par la faculté.
Qui est recommandée pour éviter tout risque de rétention.
Alors qu'il est dans un lieu qui est affecté à ça, qu'on appellerait toilette, WC, avec sans doute une trombe hydropneumatique. Comment s'est évacué tout ça? Vous appuyez ou vous tirez?
Non, je n'évacue pas la vessie contre les murs chez moi. Donc, je le fais dans mes toilettes, oui. Avec immédiatement après une évacuation par un système hydraulique.
Oui, et donc ça part dans des tuyaux, dans les égouts, il y a tout un système qui est prévu pour par les mairies. C'est bien fichu, ça.
J'ai la chance. Oui, ça, c'est bien fait. Et une fois la vessie évacuée, j'ai un peu comme tous les hommes le matin une sorte de besoin de calmer le prurite scrotal.
Oui.
Et voilà, que je fais avec beaucoup de délicatesse, bien évidemment.
J'en suis sûr. Merci de nous. Oui, vous avez raison. Confrontons-nous à nos corps. N'ayons pas peur. Rien n'est sale. Hein, c'est le titre de votre nouveau livre, apparaître la semaine prochaine. Michel, on fonce sous la douche. Vous nous recommandez une douche glacée, un choc thermique ou au contraire un accompagnement comme une caresse?
Alors, comme une caresse, et je demande toujours à ma femme de me savonner le dos, parce que seul, c'est toujours un petit peu frustrant. Donc, mais la température doit être à peu près celle du corps.
D'accord.
Pour ne pas entraîner de choc thermique dès le matin.
Une eau à 37. Michel, vous mentez aux Français puisque votre femme dormait tout à l'heure. Maintenant, elle est sous la douche lorsque vous y arrivez, à moins qu'elle soit très rapide et qu'elle soit passée par un chemin plus rapide.
Non, c'est pas ça, Edouard. C'est qu'à partir d'un certain âge, l'évacuation vésicale dont je vous parlais tout à l'heure prend entre une demi-heure et trois quarts d'heure.
Voilà, Michel, je vous remercie de votre précision. Votre femme a donc tout le temps. Pendant que vous êtes à ce qu'on appelle les toilettes, les WC, où chacun donnera le nom qu'il veut, vous avez tout le temps de laisser votre femme foncer sous la douche et vous y attendre avec peut-être un grand crin, une brosse ou simplement des bonnes intentions.
Mais je vois que vous connaissez ma femme.
Je vous remercie infiniment, Michel. Vous nous aidez à vivre et à nous réveiller.
Merci, Edouard, et je salue tous les auditeurs.
Vous êtes l'honneur de la France. Je vous embrasse, Michel Simès.
Moi aussi, ça va.
Salut, bonne journée.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
7h, 9h,
Edouard Baird.
Je passe une matinée, mon Dieu.
Il s'en passe, Thomas Baumgartner, en ce moment. Il s'en passe, le monde bouge, hein, vous me disiez.
Oh, oui,
vous m'avez dit, ne le répétez pas, mais le monde bouge, tout va trop vite, le monde marche sur la tête.
Oui, je vous ai dit, ne le répétez pas.
Oui, vous m'avez dit, ne le répétez pas. On va passer des appels.
On va passer des appels, absolument. Non, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, on avait reçu Johan Weiss, qui s'occupe du site Street Press.
Ouais, il était super.
Et qui il vient de lancer à Street Press une plateforme contributive, StreetVox. Et on l'avait dit, ah ben, s'il y a des choses qui se passent chez vous, dites-le nous. Or, il se trouve qu'il y en a pas mal de choses qui se passent sur StreetVox, mais en particulier, il y a eu une étude qui a été mise en ligne par quelqu'un qui s'appelle Nicolas Kaiser-Brill, qui est cofondateur d'une agence qui s'appelle J++, qui est une agence de data journalisme. Ça veut dire que Nicolas Kaiser-Brill et ses collègues produisent de l'information à partir de chiffres et de données diverses et variées, et de préférence quand il y a une montagne de chiffres et de données. Ils s'appliquent à en sortir justement de l'information. Et là, ils ont fait une étude sur la diversité des élus locaux, régionaux, nationaux, en France et en Europe. Une étude sur 23 000 élus pour en connaître la diversité.
Ils prennent
des
statistiques et ils en tirent des idées générales.
Absolument. Un gros travail. Donc, ça a été rendu public sur StreetVox. Et il se trouve que Nicolas Kaiser-Brill est avec nous au téléphone. Et il est à Berlin. Bonjour, Nicolas Kaiser-Brill.
Bonjour.
Pardon de vous interrompre, qu'est-ce qui peut nous faire croire que vous êtes à Berlin, Nicolas?
Je peux vous sortir sur ma terrasse où il fait très froid.
D'accord.
Et vous entendrez le tramway qui passe.
Oui, je vois bien.
Donc peut-être à la fin de
l'interview. Alors à la fin.
Oui, d'accord. Bon, très bien. Non, mais ce qui nous intéresse, c'est que vous avez travaillé, Nicolas Kaiser-Brill, sur cette question-là. C'est énormément de données. Vous avez travaillé avec beaucoup de monde. C'est quoi la méthode? Comment vous avez travaillé avec ces données-là, sachant qu'il n'y a pas de statistiques, on va dire, ethniques sur la diversité des élus ou qui que ce soit?
Alors, on a travaillé avec quelques centaines d'étudiants dans une quinzaine de pays en Europe, dans des écoles de journalisme. On fait une grande enquête sur la représentativité des élus en Europe, et une des parties de cette enquête se concentre sur l'identité des élus. Alors évidemment, comme vous le disiez, on aurait préféré demander aux élus de quelle identité ils se sentaient le plus proches, s'ils se sentaient arabes, noirs ou auvergnats. Mais si on avait fait ça, on risquait 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende en France.
Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça.
On n'a pas le droit de faire ça. Le législateur l'interdit et l'interdit fortement. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur les stéréotypes. On a demandé aux étudiants de juger si les élus sur lesquels ils travaillaient correspondaient aux stéréotypes d'un politicien. Et curieusement, pour tous nos étudiants dans tous les pays, le stéréotype est à peu près le même. Hein. Ils considèrent tous que les hommes blancs de 50-60 ans correspondent au stéréotype.
Alors, la méthode que vous utilisez, c'était, ça ressemble à l'origine, au premier pas de Facebook, ça s'appelait Hot or Not, c'est ça ? Et donc, il fallait, c'était un jeu sur un campus organisé par Mark Zuckerberg à l'époque. En fait, il y a deux photos. Il y a photo de deux élus et la personne doit dire si c'est un stéréotype ou pas, c'est ça ?
Exactement.
Donc le stéréotype, c'est quoi ? C'est quel visage ?
Justement, c'est l'étudiant qui, en toute subjectivité, décide lequel des deux ressemble le plus au stéréotype du politicien, avec évidemment la possibilité de dire que les deux ressemblent autant à un stéréotype.
Donc ça s'est transformé en une sorte de jeu pour tous ces étudiants de ces 14 écoles de journalisme. Et les 23 000 élus ont été passés comme ça au tamis. Donc il y a eu un classement. Et la France s'en sort plutôt mal, c'est ça ?
Exactement. La France est quasiment... les élus français sont quasiment les derniers du classement. Ce sont ceux qui ressemblent le plus à des stéréotypes de politiciens. Seuls les Tchèques et les Hongrois font pire.
Mais alors, il y a une question sur la diversité. Qu'est-ce que c'est que la diversité ? Ça ne se voit pas que sur un visage. Il y a une diversité sociale aussi qui existe. Donc, il y a forcément, à travers ce tamis subjectif, des choses qui ne passent pas.
Tout à fait. C'est simplement un des éléments de la diversité. On travaille aussi sur l'âge, la profession, l'origine. Et ça, il y aura d'autres articles dans les jours qui viennent qui seront publiés dans d'autres médias en France et en Europe. Ne vous en faites pas.
Est-ce que vous croyez que c'est notre faute à nous, les électeurs, c'est qu'au lieu de voter pour quelqu'un qui nous ressemblerait ou qui ressemblerait à quelqu'un normal, on vote pour quelqu'un qui a déjà une gueule d'élu ?
Oui et non.
Être crédible, la fameuse crédibilité.
Il ne faut pas oublier que... Oui, ça, c'est sûr qu'il y a pas mal d'études qui montrent qu'on a tendance à voter pour des gens qui ont des grandes mâchoires, qui ont l'air sympas. mais en réalité... les élus, on les élit parce que les partis décident de les mettre sur une liste électorale. L'électeur lambda, comme vous et moi, n'a pas vraiment ce mot à dire.
Alors, dans cette étude, on se rend compte qu'il y a des partis qui s'ouvrent plus à la diversité. Apparemment, ce sont les écologistes, tous pays confondus, qui s'ouvrent plus à la diversité. Cet outil-là que vous avez créé, dupliqué sur cet outil de Mark Zuckerberg il y a quelques années maintenant, il peut servir à autre chose ?
Nous, avec nos étudiants, là, on travaille sur la diversité des élus, mais dans les mois et les années qui viennent, on va travailler sur plein d'autres sujets. J'espère qu'on republiera ça chez Strizox.
Peut-être sur les extraterrestres aussi, le stéréotype des extraterrestres. Mais merci beaucoup, Nicolas Cazabril. On va voir si vous êtes vraiment à Berlin maintenant.
C'est où ?
Oui, vous êtes à Berlin, mais en 1920.
Oui.
J'adore cette chanson. C'est sur la programmation de 20, Thomas, je vous assure que c'est dans la playlist.
Oui, ce que vous dites.
Ah si, quand même, c'est Marie-Paul Bell.
Vous avez salué Nicolas Cazabril, courtoisement.
Vous l'avez fait, mais en tout cas, je le fais aussi. Et donc, c'est à retrouver sur Streetvox, cette étude, et les autres à suivre, apparemment. Merci à vous.
Merci.
Berlin, les années 20, Thierry Couteau. Jeune un jour, jeune toujours, Thierry Paré.
Radio Nova.
Avec l'ultime conférence de presse de Barack Obama, hein, le 44e président des États-Unis, jeune retraité de 55 ans, a dit vouloir souffler un peu et prendre du temps pour écrire. Alors, ceux qui l'adorent, sachez-le, il ne sera pas très très loin. Il a aussi précisé qu'il donc ne sera pas loin. Il va s'exprimer, enfin il s'exprimera plutôt, si une discrimination systématique venait à être ratifiée sous une forme ou une autre, si des obstructions explicites ou fonctionnelles au droit de vote devaient apparaître, s'il y avait un effort pour museler la liberté de parole ou de la presse, et si l'État raflait des enfants immigrés ayant grandi ici dans le but de les expulser. Voilà, Donald Trump, lui, prêtera serment demain et il prendra donc officiellement ses fonctions le même jour. Toujours à propos des États-Unis.
Il y avait le titre est très drôle de Charlie Hebdo, on voit une photo de Trump, il y a marqué « Et si on lui donnait sa chance ?»
Toujours à propos des États-Unis, une exécution de plus, celle de Ricky Gray. Il a été exécuté en Virginie. La Cour suprême des États-Unis a rejeté peu avant son exécution un ultime recours du prisonnier. Comme les autres États américains, la Virginie fait face à une carence des substances utilisées pour les injections létales en raison d'un refus d'approvisionnement des grandes firmes pharmaceutiques. Elle a choisi une stratégie controversée pour contourner cet écueil. Elle a garanti l'anonymat aux pharmacies prêtes à fournir des produits mortels. Et donc pour exécuter Ricky Gray, l'État a payé la somme astronomique de $66 000 pour pour se procurer deux substances fournies par un préparateur en pharmacie non identifié. Selon la Corée du Sud, celle du Nord préparerait de nouveaux essais de lancement de missiles. Dans son discours du Nouvel An, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait annoncé l'imminence d'un test de missile balistique intercontinental. Le jeune homme qui a giflé Manuel Valls à Lamballe dans les Côtes d'Armor a été condamné à 3 mois de prison avec sursis, 1 euro d'amende en fait, et il doit aussi réaliser 105 heures de travail d'intérêt général. Voilà, il est âgé de 18 ans, il a été reconnu coupable de violence volontaire sans incapacité de travail avec préméditation. Troisième et dernier débat ce soir de la primaire de la gauche. Le premier tour de cette primaire n'a pas encore eu lieu, que Jean-Marc Ayrault prend ses distances. Il lance un avertissement. J'espère que le candidat socialiste sera capable de créer la dynamique, sinon il faudra se poser la question de savoir où est la dynamique. La société américaine Hyperloop Transportation Technologies a annoncé le lancement d'une étude de faisabilité sur une liaison à très grande vitesse entre la République tchèque et la Slovaquie. Cette ligne de 130 km pourrait s'étendre ensuite jusqu'à Prague et jusqu'à Budapest en Hongrie. L'idée du train Hyperloop a été lancée en 2013 par le milliardaire Elon Musk, déjà derrière les voitures électriques Tesla. Le concept, il consiste à propulser des passagers dans des capsules circulant sur des coussins d'air dans un tube à basse pression à une vitesse de 300 à 1100 km/h. C'est pas mal.
C'est comme un pneumatique, en fait, quand on lance un pneumatique, c'est dans un tube à air, c'est ça?
Oui, alors après, je ne sais pas si de rajouter ça, ça rajoute...
À imaginer un peu ce qu'on
une
entend.
Une belle conversation de spécialiste.
Le record de chaleur sur Terre, il a été battu en 2016 pour la troisième année consécutive. Armel Lecléache poursuit sa route sans souci ce matin vers la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Il y a beaucoup de monde sur place déjà, des gens ont dormi sur place. Il devrait couper cette arrivée en fin d'après-midi, sans inquiétude d'être rattrapé a priori par son rival Alex Thompson, sauf incident technique. Le mondial de handball, dernier match de poule pour l'équipe de France qui va affronter la Pologne. Match sans enjeu, hein, puisque les joueurs français sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition et ils sont sûrs de terminer premier de leur groupe.
Ne dites pas sans enjeu, ne démotivez pas les équipes.
Oui, c'est vrai.
Je trouve ça dommage que tout à coup un journaliste...
Mais l'entraîneur toulousain quand même se bat, il veut ramener la coupe chez lui.
Non mais il n'y a pas d'enjeu, si, et le beau jeu, le beau geste, essayer de
gagner. Beau geste, c'est vrai.
C'est
le
dommage.
Sport.
Non
le
mais c'est
sport.
Dommage, je suis démotivé là.
La Coupe d'Afrique des Nations.
Comment ça se fait que vous êtes démotivé?
Parce que je vois mon Thierry Paré qui me dit, allez, c'est sans enjeu les gars.
Vous me l'avez démotivé là.
Vous pouvez aller au bistrot jusqu'à une heure avant le match.
Il n'y a pas d'intérêt, on s'en fout.
Non,
la Coupe d'Afrique des Nations.
Le sans enjeu, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Les étalons ont neutralisé les Panthères hier soir. Traduction, le Burkina a fait match nul un partout face au Gabon qui organise la CAN. De son côté, le Cameroun a battu la Guinée-Bissau 2-1. Au programme ce soir, deuxième journée du groupe B, le choc Algérie-Tunisie et puis le Sénégal va affronter le Zimbabwe. Et puis sachez également que c'est le réalisateur franco-polonais Roman Polanski, 83 ans, qui va présider la 42e cérémonie des Césars le 24 février prochain à la salle Pleyel. Roman Polanski qui prépare son 22e film qui sera consacré à Dreyfus, l'affaire Dreyfus.
Alors, tout à coup, le plateau de spécialistes, Christophe Médéot, Menkeli.
Moi, je voulais juste parler des noms qu'on donne aux équipes africaines. J'adore. C'est génial. Nous, l'Algérie, c'est les Fennecs, il y a les Lions, il y a les Gazelles.
Les Lions indomptables,
voilà.
Et
voilà, il y a les Tapirs, par exemple, comme disait Roland.
Alors, ça, c'est bien, mais maintenant, aller plus loin. Vous voyez, faites un journaliste, un petit peu un éditorialiste, alors, et en tirerait des conclusions.
Ben, le côté animal donne une force, comme ça.
Vous voulez dire qu'il y a du racisme
Non, au contraire, il y a de la force. C'est-à-dire, on passe par les animaux pour dire qu'ils vont être agiles, souples, forts.
On comprend bien.
Prêts à être près de la nature, donc indomptables. Table, voilà, c'est intéressant.
Ce n'est pas rien ce que je dis.
C'est pas du génie. Non, c'est vrai.
Ça méritait d'être dit. Méné.
Moi, voilà, j'avais fini.
Non,
c'était.
Non, mon vieux.
Il a tout dit, j'ai l'impression.
Jacques, souvent.
C'est important. Donc, moi, je continue mon processus de ralentissement du monde. J'essaye. J'ai vu des copains hier soir, ils m'ont parlé de ça. Et je suis, je sais pas votre prénom.
Gwendoline.
On essaye de marcher à 1 km/h.
Moi, ça m'embête un peu parce que j'aime bien aller vite.
Pourquoi vous aimez aller vite?
C'est dans ma nature, je suis comme ça.
Mais pour aller quelque part ou...
Non, même pas. Je sais pas, je suis habituée à marcher rapidement.
Mais Gwendoline, vous allez nulle part, mais vite.
Voilà, exactement.
Et là, si on fait cette expérience, qu'est-ce que vous éprouvez si on marche à un pas, voilà, deux pas.
Déjà, j'ai l'air ridicule.
Moi, je vous trouve très bien. Est-ce que vous marchez toujours du même pied ou vous alternez?
J'alterne.
Pour l'équilibre, c'est mieux.
Non. Ouais. Oui.
Vous êtes chaussée en conséquence? On est sur du talon plat? On est sur du il y a du compensé? On est sur de la basket?
Non, du plat. Sur du plat.
Mais dessous, il y a une chaussette d'hiver? On est sur du collant? On est sur du pied nu?
Alors, il y a collant et chaussette.
Ah oui, il y a deux couches. Oh, on passe une belle matinée. Qu'est-ce que vous m'en dites, Jacques, avec Gwendoline? Vous êtes dans quel quartier?
Ben, on est toujours dans le 12e. Mais ce qui se passe à 1 km/h, c'est qu'on sent plus son corps respirer, on voit un peu plus de choses quand même.
Ah oui, ça c'est sûr qu'on a le temps d'observer.
Hein. Qu'est-ce que vous observez ?
Des gens pressés d'aller travailler. Ah,
voilà. Gwendoline, j'ai envie qu'on aille plus loin avec vous. Je sens qu'il y a un secret, il y a un mystère. Il y a derrière ce rire, il y a bien sûr il y a un petit cœur qui a ses tracas.
Ça va.
Vous allez où, vous faites quoi? Pourquoi vous êtes dehors ce matin, chère Gwendoline?
Parce que je suis censée distribuer le direct matin. Mais il y a eu un souci de livraison, du coup, j'ai toujours pas de journaux.
Alors, avec Direct Matin, quand on nous le distribue à la sortie du métro ailleurs, ce qui est sympa, c'est pas forcément le journal, c'est le sourire qui va avec. Et c'est très... Moi, je fais des allers-retours pour qu'on me sourie. Vous souriez beaucoup en le distribuant?
Ah oui, ah bah oui.
Ah, c'est chouette. Vous êtes où? Je vais venir prendre des Direct Matin. Vous êtes à quel...
Je suis sortie boulevard Voltaire, à la Place de la Nation.
On arrive, vous avez une voix très, très sympathique et joyeuse.
Merci.
Vous avez été attaqué, ils ont été attaqués, le camion?
Non, je pense pas. Je ne sais pas, j'ai pas d'informations.
Le jour se lève ici, Edouard. On voit la lune avec des étoiles qui sont alignées. Les lampadaires vont s'éteindre dans quelques instants.
Oui. Vous êtes bien le seul. Ouais.
Et sur la place, il y a de toute la place que j'ai fait le tour. En fait, c'est pas une vraie place, c'est un rond-point, Place de la Nation. C'est le rond-point de la Nation. Il y a des city trees, qui sont des espèces de grands panneaux de déco avec des plantes, un jardin à la verticale un peu, avec des bancs en dessous. Et c'est censé capter les particules fines. Voilà, sur la place.
Je vous remercie pour cet apport, mon cher Jacques.
Oui.
À tout à l'heure, Jacques. À tout à l'heure,
Gwendoline. Peut-être, je ne sais pas.
Si, ça fait plaisir. On est content de vous avoir.
Peut-être. Au revoir.
Ça va, Plume ?
Oui.
Tu es bien assise ?
Oui.
Ah, il ne faut pas que tu parles comme ça, parce que sinon, on ne t'entend pas bien. Voilà, comme ça. C'est plutôt une chanson ou une poésie ?
C'est une poésie, mais je trouve qu'elle est plus belle en chanson.
D'accord, alors on va l'écouter comme tu veux.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Plume, ça nous fait quel âge cette année pour toi?
6 ans.
T'as soufflé tes bougies?
Oui.
T'avais invité des copains, des copines ou juste ta famille?
Des copains et des copines. Et j'ai fait aussi un anniversaire avec ma famille.
Ah, t'as fait 2 anniversaires?
Oui.
Et tu crois pas que...
Et du côté de mon père aussi, parce qu'ils sont séparés.
D'accord. Mais donc, tu as fait 3 fois ton anniversaire ?
Bah oui.
Donc, ça fait comme si tu avais 3 fois 6 ans ?
Bah oui.
Et ça fait 3 fois 6 ans, ça fait 18 ans ?
Par contre, j'ai pas 18 ans. Hein.
Mais tu as soufflé à chaque fois les bougies ?
Bah oui, pourquoi ?
Mais t'as pas le droit d'en souffler autant.
Bah, c'est pas...
C'est pas très grave, non, t'as raison. Et là, alors tu veux, qu'est-ce qu'on cause un peu ou on écoute la poésie chantée? Comment tu vois les choses,
comme
toi?
Comme tu veux. Hein.
Oh, je suis bien, moi j'aime bien discuter avec toi. Là, ça va être l'école.
Oui.
Bon, t'aimes bien y aller, moyen?
Oui, j'adore l'école.
Tu déjeunes à la cantine?
Oui.
C'est quoi tes plats préférés?
Bah, là, une soupe préférée que j'adore.
C'est laquelle? C'est la soupe à la soupe, quoi, là. Oui, c'est toujours un peu pareil, la soupe, quoi.
Par contre, on ne sait pas comment on les fait et on ne dit pas, les noms.
En fait, ils vous disent aujourd'hui soupe, ils vous disent pas ce qu'il y a dedans, quoi.
Non.
Ça peut être de la soupe aux légumes. Ça peut être aussi de la soupe au papier, au carton, tu crois? Non.
Non.
Non, c'est
des... Non, ils ne feront jamais ça.
Ah bah, il t'a bien confiance. Demande-leur quand même au cuisinier de l'école. Il est sympa?
Oui, ils sont sympas.
Bon. Bon, écoute, on écoute quand même le poème. Écoute, moi, j'aimerais bien t'entendre chanter.
Chanson de Paul Éluard. Dans l'amour, la vie a encore l'eau pure de ses yeux d'enfant qui s'ouvre sans savoir comment. Sa bouche est encore une fleur. Dans l'amour, la vie a encore ses mains grippantes d'enfant. Ses pieds partent de la lumière et ils s'en vont vers la lumière. Dans l'amour, la vie a toujours un cœur léger, renaissant. Rien n'y pourra jamais finir. Demain s'y allège d'hier.
C'est de Paul Éluard, très joli. De partir de la lumière, aller vers la lumière. C'est joli, dis donc. Et tu voulais le chanter, puis tu l'as plus chanté.
Bah oui, parce que...
T'as oublié? Mais foutez-lui la paix, là. Arrêtez de la regarder, vous la déconcentrez.
Non, mais c'est pas grave.
Mais non, mais il te déconcentre, regarde.
Mais non, il me déconcentre pas.
Ah bon, d'accord. Et t'avais une autre chanson, tu m'avais
oui.
dit on chante un petit peu.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme un oiseau bleu
sur les vagues, libre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson, naissante des vagues, abandonnée au sable blanc.
Super plume. C'est, tu sais que c'est Marie Myriam qui chantait ça, oui. Qui a gagné la... Tu la connais, oui. Marie Myriam?
Oui.
Elle est gentille?
Oui.
Elle vient à l'école souvent vous apprendre sa chanson?
Non, 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 elle vient pas à l'école.
Et Paul Éluard non plus?
Non.
Bon, alors on a leurs textes et puis on les dit. Et c'est chouette, et t'aimes bien apprendre des chansons et des poésies?
Oui.
Bon. Bah, c'était chouette d'être avec toi ce matin. Tu veux faire un petit message à quelqu'un? Tu veux dire une dernière chose avant d'aller à l'école?
Oui, mais aussi, j'avais pas trop fini.
La chanson?
Oui, je l'avais pas.
Ah, mais parce que comme ça, ça fait comme une bande-annonce à la radio, c'est bien, ils entendent le début et ça leur donne envie d'aller l'écouter. C'est dans la playlist Nova, de toute façon, L'enfant et l'oiseau de Marie-Myriam. Qu'est-ce qu'il y a, Atman?
Il faut qu'elle revienne.
Ah ben, tu vas revenir, peut-être.
Parce qu'elle est formidable.
On t'embrasse très, très fort, Plume.
Merci.
Pardon d'avoir interrompu la chanson.
Non, moi. Ça, c'est magnifique.
Je souhaite que... je sais pas trop quoi dire.
Moi, c'est bien.
Mais c'est magnifique.
C'était parfait.
7h, 9h, plus près de toi.
Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Et j'espère que ça va bien se passer pour vous. Bonne journée.
Merci, Plume. C'est bien, j'écoute jusqu'au bout par respect pour tout le travail des ingénieurs du son. Il est 8h20.
Oui.
Marie Missé.
Bonjour.
Je suis très heureux d'être là à vous écouter.
C'est gentil.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Pour commencer cette revue de presse, j'ai décidé de m'intéresser à un homme compagnon de route des communistes, hein, qui a son portrait dans La Croix aujourd'hui, mais qui écrit aussi pour Le Causeur, hein, dont la dernière une est quand même au bout de la rue, La Charia. Cet homme, c'est rigolo, agace aussi puissamment le FN, cible de ses romans et du scénario de Chez nous, film de Lucas Bellevaux qu'il a coécrit. Bref, il est un peu inclassable, l'écrivain Jérôme Leroy, pour qui c'était pas mieux avant, mais c'est pire maintenant. D'où une petite envie pour Jérôme de s'évader. Et d'ailleurs, son dernier roman, qui s'appelle un peu tard dans la saison, s'attache à des soudaines et multiples disparitions un peu partout en France. Les gens, s'évaporent du jour au lendemain. Ils désertent, en fait, la société. Ils font défection. Ils s'évaporent pour reconquérir leur liberté, des déserteurs façon Boris Vian, mais d'un nouveau genre. Les déserteurs de société, ça existe évidemment déjà, et parfois ils sont SDF. Ces déserteurs, c'est le cas de Hervé, dont Street Press a fait le portrait, mais aussi Libération et Ouest France. La raison de cette popularité, c'est une activité intense sur Twitter, où il râle, il trouve aussi pas mal de boulot. Et il gagne un peu plus de 1000 euros par mois de temps en temps. Hervé, grâce à ses boulots trouvés sur Twitter, il pourrait donc se loger s'il avait envie, mais il n'a pas envie.
Comment on trouve du boulot sur Twitter?
Et bah, il fait du truc de... Il retape des trucs.
Ah, des mecs, voilà. C'est une sorte de bon coin Twitter.
Voilà, et les gens lui envoient des caisses de Toblerone aussi. Enfin bref, il a réussi à créer une petite communauté. Donc il pourrait se loger s'il avait envie, il n'a pas envie. C'est un ancien éducateur, il est donc un peu déserteur façon Jérôme Leroy, quoique Jérôme Leroy n'est pas très fan des réseaux sociaux, ces outils pervers de contrôle comme il les appelle. Il parle de ses filles à Street 13, Hervé, en disant « Je vais les voir tous les week-ends, sinon je deviens fou. » Et leur maman le sait. Elle sait aussi que la rue me manque et que j'étouffe entre quatre murs. En ce temps de froid glacial, qui, comme vous le rappelez communément ce matin, Edouard, s'appelle l'hiver.
L'hiver, c'est simplement l'hiver. Rassurez-vous, voilà. Il ne s'est rien passé. Ne changez pas votre télé, c'est l'hiver. C'est l'année dernière aussi, l'année prochaine.
L'année prochaine aussi. Et les SDF en hiver, c'est un petit peu un marronnier de saison. Ils reviennent dans les journaux. Ainsi, le Parisien s'attache, et c'est tout à son honneur, à nous expliquer ce qu'on peut faire pour aider les SDF. Le journaliste rappelle que c'est bien de commencer par écouter leurs besoins. Bref, le conseil est sommaire, mais il est bon, il faut se parler, en fait. Ne pas apporter tout et n'importe quoi. Et surtout, il ne faut pas réveiller ceux qui arrivent enfin à dormir, à part s'ils sont en t-shirt, ça peut s'apparenter à un suicide par le froid. Dans ces cas-là, c'est assez difficile de trouver le sommeil comme ça qu'on est dans la rue.
Les associations sont très énervées. On ne s'aperçoit qu'il y a des SDF que l'hiver, il y en a toute l'année. Ça serait bien qu'on s'en occupe aussi les autres.
Et il y en a qui donnent des codes d'immeubles aussi pour que les gens puissent dormir dans les immeubles. Je trouve ça pas mal,
oui.
Pas dans la rue.
Eh bien, très bien. On diffusera tout ça. Il y a quelques jours, dans Street Press, un article paraissait hyper l'air dubitatif quant à un autre moyen d'aider les SDF, c'est l'appli We Save Homeless, présentée au CES de Las Vegas. Une application, de loin, l'idée a l'air bonne, géolocaliser les SDF, permettre une meilleure coordination entre les associations, rationaliser l'aide aux SDF en quelque sorte. Irénée, blogueur de Ouvalweb, repris par Street Press, explique pourquoi cette idée devrait rejoindre bientôt les bonnes intentions, celles qui pavent les pavés de l'enfer. Déjà, et le Parisien serait d'accord, peut-on demander leur avis, s'il vous plaît, aux SDF, qui sont des gens et pas des radars, avant de les géolocaliser? Et puis, comme toujours avec les données, question subsidiaire, si elles tombent dans les mains d'une mairie peu compatissante, par exemple, plus encline à virer les SDF qu'à les aider, qu'est-ce qu'on fait? Deux, d'après Irénée, il y en a marre de cette maladie du siècle qu'est le solutionnisme technologique, cette croyance qu'on va régler tous nos problèmes sociaux à coup d'application et sauver le monde, ou en l'occurrence les sans-abri. On rappelle que l'appli s'appelle Save the Homeless. Et puis trois, peut-on traiter l'extrême pauvreté par des politiques publiques dignes de ce nom? Promouvoir les solutions techno, d'après Irénée, c'est s'éloigner du politique. Or, je cite Irénée toujours, n'ayons pas peur des mots, c'est un choix politique que de laisser mourir ces milliers de gens plutôt que de leur trouver un toit et de mettre en place des politiques d'insertion efficaces. Et pour ça, il n'y a pas d'application. L'humanité du jour serait tout à fait d'accord avec Irénée. Dans l'édition d'aujourd'hui, il brocarde Valérie Pécresse qui s'est fendue d'un gros communiqué en début de semaine pour dire qu'elle débloquait 100 000 euros au nom de la solidarité par ces temps de grand froid, omettant de préciser dans le même camp que dans le budget super économe, comme elle l'appelle, de la région Île-de-France présenté la semaine dernière, plus de 7,2 millions d'euros ont été retirés justement aux associations franciliennes œuvrant pour les sans-abri et les plus démunis. En 2016, Valérie Pécresse a supprimé l'aide régionale au SDF. En 2017, elle a divisé par deux le budget logement social. Un choix politique donc et pas une fatalité, pour reprendre une dernière fois les mots d'Irénée dans Street Press.
Ouais, oui, il a bon dos, Irénée dans Street Press. Tu l'aimes pas, ta Pécresse, dis-le, Marie-Missy.
Valérie, vraiment, écoute, je trouve qu'elle fait des choix. Non, moi, je fais que relayer, tu sais. Moi, je dis ce qu'il y a dans la presse.
C'est d'habitude,
la fin.
Vous finissiez sur un truc complètement un peu poétique et étrange.
Je me suis dit Boris Vian pour commencer, et puis terminé par Valérie Pécresse. C'est pas tous
le
les jours la fête.
De Boris Vian, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi? Ah.
Il fait une chaleur dans cette émission.
Bouchta, notre correspondant marseillais, nous a beaucoup parlé de sa cousine qui a une vie très aventureuse sur la Côte d'Azur. J'aimerais qu'on termine cette histoire qui a rendu la France folle. La France était attachée à cette histoire. Et puis on s'est perdu dans les méandres d'un mari russe, d'une ex-mari chinoise. Et là, il y a eu une baisse d'intérêt, Bouchta, pour cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bouchta, bonjour.
Bonjour, Edouard.
On s'est perdu. Ta cousine a une vie trop aventureuse, donc les gens ne savent plus où on en est.
Ah ben, on en est, elle était dans la chambre et avec le russe.
Oh, le mec donc, qui reprend le feuilleton 3 jours après, exactement où on l'a laissé. Très bien, alors allons-y. Rien de scabreux, hein, mon Bouchta. Tu sais, c'est une émission de haute tenue morale. Et...
D'accord, alors je t'explique. Alors elle était dans la chambre avec le russe.
Oh mon Dieu.
Et d'un coup, il prend un gros sac ou une mallette, j'en sais rien, et il jette tout sur le lit, c'est 300 000 euros. En petite coupure, plein de billets. Des billets verts, des billets violets, dès qu'on a vu l'arc-en-ciel sur son lit. Elle est d'une folle, ma cousine. D'un coup, elle s'est mise nue, elle a plongé dans le lit, elle a nagé. Le mec, il a regardé, il a dit, le temps, c'est de l'argent. Alors, si tu veux nager, fais vite, parce que j'ai réservé une table dans la discothèque en bas. Alors, elle a vite nagé, vite, elle s'est rhabillée, dans l'argent, et elle descend en bas, dans la discothèque. Elle a commencé à boire du champagne avec lui. Bonne soirée, t'es contente. Elle a écrasé sa cigarette dans le cendrier. D'un coup, devenu cendrillon. Il lui a dit, écoute-moi, ma belle, tu vas aller où? Elle a dit, moi, mon rêve, c'est d'aller à Villefranche-sur-Mer. Il lui a dit, pourquoi Villefranche-sur-Mer? Elle a dit, j'aime le cadre. Elle a fait exprès. Hein. Elle m'a dit, en vérité, je préférais là-bas Villefranche-sur-Mer parce que je suis à côté de Monaco, je suis à côté d'Italie, je suis à côté de Nice, je suis à côté de tous les clients, c'est plus rapide. Plus besoin de courir après les trains. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, il amène une agence à côté de Monaco. Il rentre. Il dit, choisis une belle baraque à Villefranche-sur-Mer, magnifique, piscine, sauna, hammam, cendrillon. Il signe, il donne la carte, il paye un an. Elle monte dans la chambre et lui dit, merci, tu es mon bébé, tu es mon ci, tu es mon ça. Mais il n'est pas passé à la casserole encore. Hein.
Mmh.
Le mec, il est vraiment grave.
Mmh. Belle histoire elle d'amour,
dit,
en tout cas.
Voilà.
Oui.
Elle dit, qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors, il lui dit la vérité. Il dit, écoute, je travaille pour le Vatican. Ah, ah, qu'est-ce qu'il faut au Vatican? Ah, ben, je suis un peu un genre de coursier, je travaille pour une OGM, OGM, je sais pas quoi là, association qui ramasse l'argent.
Quoi qu'il en soit, oui.
Voilà. Et alors, c'est quoi cette association? Il m'a dit que ça s'appelle Bancomatique Amidon. C'est des dons des amis. Ah. Alors, elle a rien dit, elle a dit c'est bien, il a une bonne affaire, il travaille bien, il est gentil. Finalement, le mec, il dit, écoute, moi, je n'ai pas le temps, je te laisse dans la maison, tu as la carte bleue, pas, c'est pas bleue, elle était noire, elle avait marqué Infinity ou Definity ou j'en sais rien.
Dieu, quoi.
Et il a dû profiter avec ça, fais tes courses, fais le shopping, prends un taxi, et je reviens dans quelques mois. Un an après, il revient. Elle, entre-temps, elle est devenue folle, elle a pris son taxi, elle est partie à Monaco, casino, pas casino, elle est partie dans toutes les vitrines des hôtels, et je ne sais pas ce qu'il lui a appris, elle m'a dit, chaque fois, je trouvais une croix, un diamant, j'achetais. Une croix, une deuxième croix, une quatrième croix, pleine de croix, des croix, des croix. Je dis, comme Madonna, elle m'a dit, non, je ne sais pas pourquoi. Ils étaient beaux, les diamants, ils étaient gros.
Bouchta, là, il va y avoir le journal de Thierry Paré. Comment s'est terminée cette histoire?
Ah, comment s'est terminée? Ben, lui, il a disparu, il a laissé avec plein d'argent. Et du jour au lendemain, il rentre en prison. Quand il rentre en Russie, c'est une grosse affaire là, qui est sortie dans les journaux il y a 14 ans et en arrière. Et hier, il est sorti de prison.
Il est sorti de prison hier?
Hier, il est sorti, en plus de ça, il paraît qu'il manque 45 milliards de, je sais pas quoi, de dollars ou de, je ne sais rien.
Donc, il va y avoir de la suite dans la vie réelle à partir de demain. Bouchta, on suivra ça avec plaisir à l'antenne ou hors antenne, peut-être. On
t'embrasse
très fort, mon Bouchta.
Ah, enfin, je voulais te dire, dans ma cité, toutes les filles sont arrivées avec des valises et tout, sont tous devant la porte. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, on va aller à Monaco.
On t'embrasse, Bouchta.
Tiens,
merci à Bouchta, de Doliprane et Thierry Paré.
Une exécution de plus aux États-Unis. Ricky Gray a été exécuté en Virginie. Alors, comme les autres États américains, la Virginie fait face à une carence des substances utilisées pour les injections létales. En raison d'un refus d'approvisionnement des grandes firmes pharmaceutiques, elle a choisi une stratégie controversée pour contourner cet écueil, garantir l'anonymat aux pharmacies prêtes à fournir des produits mortels. Ainsi, pour exécuter Ricky Gray, l'État a payé la somme astronomique de 66 000 dollars pour se procurer deux substances fournies par un préparateur en pharmacie non identifié. L'ultime conférence de presse de Barack Obama, le 44e président des États-Unis, jeune retraité de 55 ans, a dit vouloir souffler un peu et prendre du temps pour écrire. Alors, ceci dit, il a aussi précisé qu'il ne sera pas loin et qu'il s'exprimera publiquement si une discrimination systématique venait à être ratifiée sous une forme ou une autre, si des obstructions explicites ou fonctionnelles au droit de vote venaient à apparaître, s'il y avait un effort pour museler la presse de parole ou pour museler la liberté de parole ou la presse, et si l'État raflait des enfants immigrés ayant grandi ici dans le but de les expulser. Donald Trump, lui, prêtera serment demain et prendra donc officiellement ses fonctions le même jour. Selon la Corée du Sud, celle du Nord préparerait de nouveaux essais de lancement de missiles. Dans son discours du Nouvel An, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait annoncé l'imminence d'un test de missile balistique intercontinental. Les transports en commun de Rome sont toujours paralysés ce matin suite aux tremblements de terre qui ont touché hier la région. Trois fortes secousses de magnitude supérieure à 5 ont frappé le centre du pays. Le jeune homme qui a giflé Manuel Valls à Lamballe dans les Côtes d'Armor a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 105 heures de travail d'intérêt général, 1 euro aussi d'amende. L'homme âgé de 18 ans a été jugé coupable de violence volontaire sans incapacité de travail avec préméditation. Troisième et dernier débat ce soir de la primaire de la gauche. Le premier tour de cette primaire n'a pas encore eu lieu. Que déjà Jean-Marc Ayrault prend ses distances et lance un avertissement à ses camarades. J'espère que le candidat socialiste sera capable de créer la dynamique. Sinon, il faudra se poser la question de savoir où est la dynamique. Le musée... Oui.
Non, rien. Ne vous laissez pas déconcentrer.
Le musée d'Auschwitz-Birkenau veut comprendre. Les autorités du lieu viennent de lancer un appel aux Allemands et aux Autrichiens afin qu'on leur transmette tout souvenir des soldats SS de l'ancien camp nazi, lettres privées, photos, etc., pour permettre, je cite, de mieux comprendre la mentalité des bourreaux. Selon le directeur du musée d'Auschwitz-Birkenau, sans une analyse détaillée, sans comprendre les motivations des bourreaux, nos efforts en vue de mettre en garde les générations futures resteront seulement intuitifs. Le musée s'est engagé à garantir l'anonymat des donateurs. Et Auschwitz célébrera la semaine prochaine, vendredi 27 janvier, le 72e anniversaire de sa libération. Le record de chaleur sur Terre, il a été battu en 2016, et ce pour la troisième année consécutive. Ils sont déjà très nombreux sur place au Sable d'Olonne à attendre Armel Lecléache. Le Breton va remporter le Vendée Globe. Il devrait franchir la ligne d'arrivée en fin de journée, suivi de près quand même par le Britannique Alex Thompson. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale du Mondial de Hand et certaine de terminer première de son groupe, l'équipe de France va affronter la Pologne ce soir. Dernier match de poule pour les les Français. Algérie, Tunisie, Sénégal, Zimbabwe, c'est le programme du jour de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Hier soir, les étalons ont neutralisé les Panthères. Traduction, le Burkina a réussi à faire match nul un partout face au Gabon, qui organise la CAN. De son côté, le Cameroun a battu la Guinée-Bissau 2-1. Petite devinette, qui est le joueur de football le mieux payé au monde, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Pas de réponse. De toute façon, c'est aucun des deux. C'est aucun des deux, puisqu'il s'agit de Carlos Tevez, qui a signé au club Shanghai Shenhua en décembre. Son salaire annuel, 40 millions d'euros. Ce record sera peut-être le dernier d'une folle série dans le football chinois, puisque la Super League chinoise cherche à calmer la frénésie des dépenses des clubs. Et désormais, ces derniers ne pourront plus aligner 5 joueurs étrangers par match, mais 3. Sachez aussi que c'est le réalisateur franco-polonais Roman Polanski, 83 ans, qui présidera la 42e cérémonie des Césars. Ce sera le 24 février prochain à la salle Playel.
Merci. Il y a Alain Vague, notre ami Alain Vague, de l'empereur de la tomette salernoise, qui est le passage à Paris, qui nous fait un passage
amical. Écoute, ici,
comment ça se passe à Salerne, là, l'hiver, en ce moment, Alain?
Il fait plus froid qu'ici.
Oui.
Mais aussi beau. Parce
et
que
la terre,
de, Paris
la
est
terre
beau.
De Salerne à laquelle
la
on fait la
terre, elle est belle, elle est bonne.
On peut la
elle
travailler
est...
l'hiver quand elle est gelée, comme ça?
Pas trop. Mais pas non plus l'été, trop non plus. Non, à ce moment, on est calme. On
c'est
est calme.
Voilà, c'est la faute du tas de lacs, c'est la faute du béton ciré.
Le béton ciré.
Il faut arrêter dans les salles de bain, les cuisines, de mettre du béton ciré. Il faut revenir à la terre.
Il fait du carrelage de piscine aussi.
Non, mais c'est piscine toute la aussi, terre. Il fait de la terre.
Il fait de la tomette octogonale flambée, qui est très très belle. Moi, je suis allé chez lui.
Oui.
Vous avez montré de la tomette octogonale.
Alors, allez à Salerne dans le Var. Allez voir Alain Vague. On a un appel. C'est Jacques Souvent.
Hein?
Pardon ? Bonjour.
Je voulais te poser une question.
Oui.
Est-ce que le film que tu as fait, il est de mon âge ?
Mais c'est quoi cette histoire ? Mais tu as quel âge ?
J'ai 8 ans.
Tu as 8 ans ? Tu veux aller voir mon film ? Mais tu veux y aller seule ? Bah, tu peux y aller parce que les enfants peuvent venir, il y a des animaux, il y a d'autres enfants dans le film. Moi, je crois que tu peux y aller. Je suis désolé de cette incartade publicitaire pour mon film Ouvert la nuit, qui est dans toutes les bonnes salles en ce moment. Mais oui, ma chérie, tu peux y aller. Tu es avec qui là?
Ah,
tu es
merci beaucoup. Hein.
Bah, beaucoup, tu peux. Je suis très embêté. D'ailleurs, il y a.
Je t'adore.
Oui, mais merci. Mais tu es avec Jack souvent?
Non.
Mais tu es toute seule dans la rue? Je comprends rien du tout.
Mais. Non, je suis dans la voiture avec ma maman et mon petit frère.
Ah bon, bah, très bien ma chérie. Qui conduit, c'est toi?
Non, c'est ma mère.
D'accord, et ton petit frère, il dort?
Je sais pas ce qu'il fait.
Oh bah, il faut regarder quand même un petit peu.
Bon, merci. Très bien. Ouvert la nuit, une entrée de plus.
Au revoir,
ma belle. Merci.
Mais on aurait dit Clo-Clo, le téléphone pleure. J'ai adoré votre relation avec cette fille.
Maman est près de toi.
Oui. Oui.
Alors dis-lui, maman, c'est quelqu'un pour toi. Jack, souvent dans la rue, j'ai cru que c'était ça. C'est
on est rue de Montreuil. Je suis descendu. J'ai marché un petit peu. Je suis quitté la place de la Nation. Et puis, il y a un monsieur qui était avec un imperméable fluo qui était au téléphone.
Oui, je vois qui c'est.
Un blouson de motard fluo.
Et donc, on était devant un cabinet de podologue pédicure et il n'est pas là.
Le podologue n'est pas là, c'est pas le titre d'un film. Hein. Et donc, je me suis...
On a envie d'aller le voir. Oui.
Mais si vous le podologue travaille avec le pied. Alors, le matin, ça va encore parce que théoriquement, on a pris sa douche. Mais là, en fin de journée, c'est un film odorant.
Oui, c'est un film gore. Dites-moi, vous aviez rendez-vous avec ce podologue? Qu'est-ce qui se passe ou quoi au cas?
Alors, c'est un drame national. Peut-être même un galactique. Et j'avais noté sur mon agenda électronique, j'utilise toutes les dernières technologies malgré mon grand âge.
Ouais, ouais.
Et fort de ça, à 8h15, j'étais devant la porte et il n'y a personne. J'ai eu la chance de rencontrer votre journaliste de haut niveau.
Ouais. Ah oui, le mec.
Et donc, j'ai remarqué que chez Nova, vous avez les meilleurs.
Oui, ouais, ils sont tous là.
Ils sont tous là, je crois. Donc,
qu'est-ce qu'on fait, monsieur, là, le podologue a 25 minutes de retard, vous êtes là, vous êtes en train de faire les petits
trucs en chez lui. Non, j'allais repartir avec ma moto, et puis...
Oh, c'est dommage, non, oui.
Bah, je sais bien, mais comme je suis quand même relativement âgé, j'ai le poids des âges qui m'assaille un peu.
Ça vous fait quel âge, cette année?
67, et si vous n'avez peut-être pas noté mon côté africain avec le côté Maasai.
Non, ça n'apparaissait pas du tout à la.
Non, bah non, à la radio, c'est difficile pour apparaître.
Mais dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez au pied, cher monsieur ?
Eh bien, cher monsieur, j'ai les conclusions des vieux sportifs et donc j'ai le talon d'Achille qui merdouille.
Oh merde !
Oui, comme vous dites, et donc je suis obligé de me faire assister. C'est au talon d'Achille, hein, c'est pas pour le reste. Et donc, fort de ça, bah, je vais repartir comme un connard.
Ouais. Non, faut amputer. Non, j'ai vu les radios, hein. Oui. Faut amputer, je vous le dis, parce qu'on est entre adultes, on va pas se mentir.
Oui,
pas
non, mais
pot, vous pouvez l'entendre.
Déjà... Oui, mais maintenant, comme j'ai déjà été circoncis il y a fort longtemps, on attaque le haut de la colline et ça fait mal.
Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle route à moto. Je souhaite que ce podologue ouvre un jour.
Et moi aussi, je vous souhaite une belle année, et surtout une bonne santé et des bons pieds.
Oui, et de très joyeuses Pâques à venir.
Bon pied, bon oeil. Voilà. Et toujours des rencontres incroyables.
J'en peux plus de tout.
Très bon accent parisien. Quand
merci,
même.
À tout de suite.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
On est obligé d'interrompre le morceau. J'enverrai une lettre au musée. Il n'y a aucun problème à la maison. Non, alors, on est en train de faire la balance aussi de Flavia Coelho qui va chanter live tout à l'heure parce qu'on a rapatrié le Café Nova pendant que Pathé à Angers, que l'hiver est arrivé. Enfin, j'aime bien vous tenir au courant de la maintenance, des petits détails, des coulisses de l'émission. Pendant ce temps-là, ils sont là avec nous, Isabelle Robetz et Raphaël Garrigo. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venus nous voir ?
Non.
Pas très gentil.
Non, on n'est pas très gentil.
Il faut venir voir Parrain. Pour les petites étrennes, Parrain, vous avez fait un petit cadeau. C'est les jours, nos amis des jours qui reviennent. Le site Les Jours, les obsessions des jours, ils viennent souvent nous en parler. Aujourd'hui, vous continuez cette obsession sur ce que vous appelez l'Empire, c'est-à-dire l'Empire Bolloré. Où en êtes-vous ?
Ça explique aussi qu'on n'a pas pu venir avant, c'est qu'on avait du travail.
Vous étiez en immersion.
On était en immersion, on avait mis nos gilets pare-balles, on était en train de faire des enquêtes.
Qu'est-ce que vous avez vu de paragoutant ? Qu'est-ce que vous avez fouillé ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Bah là, en fait, c'est un chiffre qu'on cherchait depuis longtemps, c'est savoir est-ce qu'il y a un effet de Vincent Bolloré sur Canal+. Et c'est le chiffre qu'on sort aujourd'hui, à savoir que les nouveaux abonnés sont en chute libre. Canal+ recrute 20% d'abonnés en moins. Par rapport à l'année précédente, qui était déjà pas terrible, terrible.
Alors, il y a moins de plus ou il y a 20% d'abonnés en moins. C'est pas la progression qui a diminué.
C'est les abonnés qui ne viennent pas.
D'accord.
C'est le recrutement de nouveaux abonnés.
Anciens se réabonnent ou pas ? Parce que vous savez, comme les chiffres, la baisse du chômage a baissé ou l'augmentation a baissé. C'est-à-dire qu'on...
En fait, ils n'ont pas trop le choix. L'abonnement est reconduit. C'est un peu le système. Après, il y a un autre chiffre qui sera intéressant à voir, qui c'est celui des résiliations.
Ah oui, parce que moi, j'adore les gens qui disent j'annule mon abonnement sur Canal+, si ça continue comme ça.
C'est un truc qui se dit beaucoup, mais il faut attendre la date anniversaire. Donc, c'est un chiffre qui est plus compliqué à obtenir. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en plus de ce chiffre-là, on raconte un nouveau show de Vincent Bolloré à l'Olympia, qui appartient à Vivendi, encore une fois, c'est cette grande entreprise toute intégrée. Et il était hier à l'Olympia pour motiver les troupes. Et il a essayé de le faire, du moins.
Et il n'a pas très, très bien réussi, en fait, à les motiver.
Il n'a pas rempli son Olympia, comme Frédéric François ?
Bah, il a un peu... Frédéric François, Vincent Bolloré, franchement, c'est osé. C'est pas très sympathique.
Surtout qu'on
ne
sait plus aujourd'hui.
Peut-être
qu'on appartient à Vincent Bolloré, peut-être que dans la nébuleuse verticale de la vie économique, peut-être qu'on dépend de lui aussi, on ne sait pas. Pourquoi c'était pas bien le show de Bolloré, l'Olympia ?
Bah, il n'était pas très en forme, Vincent Bolloré, alors que normalement, bon, il en fait des tonnes. Il parle de ses ancêtres, les fiers marins, il parle des Vikings, enfin bon.
Ah, vous l'aimez, votre Bolloré. Pourquoi il n'était pas en forme ? Il était en jet lag ? Comment ça s'est passé
Quand on a moins 21% d'abonnés sur l'année dernière, on n'est pas forcément très, très en forme. Donc il a essayé un peu de motiver les troupes, mais c'était un peu mollasson quand même.
Il a cité du Kipling.
Tu seras un homme, mon fils. Si toi aussi tu parviens à renouveler ton nombre d'abonnés sans renoncer à tes valeurs, c'est ça que disait Kipling ?
Exactement. Tu seras un homme, mon fils.
Il disait ça à son fils ou pas ?
Non, il disait ça pas au fils de Lord Atman, soyez gentil. Donc vous avez été déçu, vous avez quand même fait la claque à ce show Bolloré.
Hélas, on n'a pas pu rentrer.
Ah, vous avez traité ça de l'extérieur.
Ah, il y a des façons de faire.
Vous aviez des taupes.
Maintenant que Raphaël vient de nous griller en direct, c'est un peu difficile de dire autre chose.
Vous suivez aussi les primaires socialistes dans les jours ?
Oui, exactement. Et ce soir, on va faire un épisode en direct. Ça arrive dans les séries qui est des épisodes en direct. Ça arrive dans Tootsie, d'ailleurs.
Mais oui, dans le dernier de Tootsie.
Exactement. Ouais. Et donc là, on va faire un épisode en direct. On espère qu'il y aura autant de suspense que que dans l'épisode de Tootsie dont on parlait.
Donc ce soir, si vous voulez suivre les primaires socialistes en direct dans les jours, ouais. Et puis retrouver des secrets sur Vincent Bolloré dans l'obsession sur l'Empire. C'était donc ça.
C'était donc ça.
Merci, chers amis.
Merci.
Je n'ai jamais vu autant de monde dans ce studio. Alors là, on est 150.
Non, parce que voilà, on est tous là pour Flavia Coelho qui va chanter. La rentrée, n'ayez pas peur.
Il n'y a plus de place.
Tiens ton chien, Rudy. Tiens ton chien.
On est 5000.
Tiens ton chien. Alors, mettons la pub maintenant, on s'en débarrasser.
D'accord.
Hein, oui.
Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird, 7h, 9h, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Non, ce n'est pas à cause de moi la pub. Si comme moi vous êtes sorti KO de ces 19 minutes de pub, finissons en douceur et en joie avec Rudy et Flavia Coelho avant de retrouver nos amis des 30 Glorieuses.
Flavia, il faut qu'on s'excuse de t'avoir fait te lever si tôt et d'avoir bravé ce froid sibérien. Alors séance de méditation pour tout le monde, fermez les yeux, Édouard, ferme les yeux.
Oui, bah, s'il te plaît.
Il est très exactement 5h55 du matin. Les deux taxis que nous venons de prendre avec Édouard, Christophe, Atmen, Eugénie, Armel, Victor et Al nous déposent Avenida Atlantica vers le numéro 1456, au tout début là de Copacabana. Il fait 31 degrés, l'air est humide. On a passé une nuit de folie. Je vous avais bien dit, les mecs, que c'est Flavia qui avait les meilleurs plans. Il était dingue ce début de soirée à Pedro do Sol avec la samba. Et puis après ce baile funk dans les rues de Lapa. Bon, c'est vrai que c'est un peu parti en vrille quand Édouard et Atmen ont commencé à danser torse nu, collé à ces danseuses. Mais que veux-tu, faut pas leur en vouloir. Rio, c'est magique.
C'est un peu long, après on va dépasser.
Les amis, j'ai pas envie de me coucher. Il y a un bar ouvert, on y va.
Il y a Yacine et Thomas sont là. On écoute Flavia Coelho.
Flavia qui sera à l'Elysée Montmartre le 2 mars prochain.
Et ben voilà, il faut réserver. Merci Flavia.
À toi Flavia, musicien. Merci d'être là. Une caipirinha.
Bisous Flavia. Quem
bate não lembra quem bateu. Não tá a fim de lembrar. Não pergunta se doeu. Diz que o amor não vai matar. Bate não lembra quem bateu. Não tá a fim de lembrar. Nem pergunta se doeu. Diz que o amor não vai matar. Tá tudo em todo lugar. Gente que prefere sofrer por amor. Tá tudo em todo lugar. Gente que prefere esconder, quase toda a minha vida chora. Você passa o tempo a me provocar com a sua vaidade, com seu blá, 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 blá. Não maltrate o que sou, aceite o que sou, não mude o que sou. Não maltrate o que sou, não, 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 não maltrate o que sou, aceite o que sou. Não mude o que sou, não maltrate o que sou. No, 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 no. Quem bate não lembra quem bateu. Não tá a fim de lembrar. Não pergunta se doeu. Diz com amor. Quem bate não lembra quem bateu. Não tá a fim de lembrar. Nem pergunta se doeu. Diz com amor não vai matar. Tá tudo em todo lugar. Gente que prefere sofrer por amor. Em todo lugar, gente que prefere esconder. Passo toda a minha vida a chorar. Você passa o tempo a me provocar com a sua vaidade, com seu blá, 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 blá. Não maltrate o que sou, aceite o que sou. Não mude o que sou, não maltrate o que sou. Alô, alapá, ragamuffin. Yo! Leve contigo toda a minha dor, cê me largou, me deixou, não quer fazer amor. Fala, me fala da onde? Conta, me conta quem sou eu pra discutir, eu pra duvidar. Você que me largou, deixou pra lá. Fala, me fala da onde? Conta, me conta. Leve contigo toda a minha dor, cê me largou, deixou, falou, não quis mais fazer amor. Fala, me fala da onde? Conta, me conta. E quem sou eu pra discutir, eu pra duvidar. Você que me largou, deixou pra lá. Fala, me fala da onde? Conta, me conta. E leve contigo toda a minha dor. Cê me largou, deixou, alô, não quis mais fazer amor. Fala, me fala da onde? Conta, me conta. Leve contigo toda a minha dor. Cê me largou, deixou, falou que não quer mais fazer amor. Fala, me 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 fala. Na porta do céu pra quê? É pra chorar e pra depois ir com seu blá, 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 blá.
Merci à Flavia Coelho, merci Victor Attila, merci à tous les musiciens. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Salut.
Édouard Baer.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.